Dans le cadre de Vinapogé 2024, nous vous présentons un atelier intitulé La maturité révélée. Manuel Pérondet, meilleur sommelier de France 2008 et MOV sommelier 2011, président de Chef-d'œuvre, nous aide à remonter le temps. Il présente et commente des vins jeunes et à maturité de trois vignerons de Vinapogé. Le domaine Bellargus, Yvan Massonnat, Loire. Le domaine de Lat, Christine et Stéphane de Renoncourt, Castillon-Côte de Bordeaux. Et enfin Château de Pibarnon, Éric de Saint-Victor à Bandol.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dégustation qu'on va partager ensemble autour de la maturité. Pour ceux qui ont un petit peu trop le soleil, je ne sais pas s'il est capable de baisser un tout petit peu un store, mais on va essayer, sinon on peut essayer de se déplacer, voir comment on peut améliorer les conditions des uns et des autres. Très heureux de pouvoir évidemment participer à cette nouvelle édition. Merci David pour l'introduction à ce qui me semble totalement essentiel en fait dans la vie d'un amateur, c'est de comprendre un petit peu les phénomènes, les trajectoires et les courbes d'évolution dans les vins. Et au travers de cette dégustation comparative, trois duos de trois vins, de trois domaines qu'on a sélectionnés parmi les vignerons présents aujourd'hui à Vinapogé, ce qu'on va essayer de vous donner un petit peu comme piste et comme réflexion, c'est les sensations, les gammes aromatiques, mais aussi les process qui font que on peut ici et là améliorer les trajectoires d'évolution, on va en parler un petit peu. Ce qui va être aussi assez fascinant dans cette dégustation, c'est qu'on va parler évidemment de millésime, de construction de millésime. On va parler d'un phénomène assez intéressant qui est la minéralisation de la matière à travers les années qui passent. De plein de choses qui seront, pour vous en tout cas, je pense, très nourrissantes sur l'expérience. Et ce qu'on veut bien sûr, c'est que vous vibriez au contact des vins qui sont proposés aujourd'hui. Alors, trois duos vont être proposés aujourd'hui. Il va y avoir un premier duo de blanc autour de ce fameux Coteau d'Étreuil du domaine de Bellargus. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est bien entendu de comprendre à deux époques, peut-être l'époque sous Jopiton et puis l'époque imprimée par la nouvelle équipe d'Yvan Massonnat au domaine de Bellargus. Mais on va surtout parler un petit peu de la grandeur des lieux et de la structure et de la manière dont la structure se construit autour de cette parcellaire. Le deuxième duo qu'on va déguster sera un duo des Côtes de Castillon du domaine de Lat, pour que vous compreniez là encore un petit peu aussi comment les vins de Stéphane et Christine de Renoncourt évoluent, mais surtout un petit peu les petites choses qui ont changé entre-temps. On va pointer du doigt l'augmentation de la proportion des Cabernet Franc, la manière dont les boisés ont été un tout petit peu relevés. Je vais être le témoin un petit peu vivant de sensoriel de ce qui s'est passé, mais surtout pour cette propriété que j'ai vue pour les premiers millésimes en 99, il s'est passé pas mal de choses. Et si vous lisez un petit peu le journal, vous savez que ça fait partie des domaines qui récemment font un petit peu parler d'eux. Donc évidemment, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'avant-après avec deux très grands millésimes qui sont d'une certaine manière en termes de construction assez proches sur le ressenti un petit peu de la fraîcheur et du sel. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis on atterrira un petit peu plus dans le sud avec une parenthèse ensoleillée à Pibarnon. Vous allez voir, là encore, plein de choses qui nous permettront de comprendre un petit peu l'immensité du lieu, de voir aussi un petit peu la vision et la trajectoire des domaines et du millésime. Et vous allez voir qu'à travers un millésime comme 2019, qui était sans eau, très solaire, très concentré, etc., eh bien en fait, on arrive à faire naître de la grâce et des vins fins. Peut-être que ce n'était pas encore la trajectoire des vins des années 2000. En fait, on arrive à faire passer beaucoup de classe et d'élégance aujourd'hui dans le sud avec un cépage qui se dit irrévérencieux, qui se dit puissant, épicé et tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu le programme. Évidemment, j'aimerais que cette dégustation soit quelque chose de participatif. Si je fais un long monologue d'une heure, ça va être boring pour tout le monde. Ce que je vous invite à faire, c'est poser le maximum de questions. L'idée, c'est que je puisse interagir, si je peux répondre évidemment aux questions. Je fais avec bien sûr la culture que j'ai des domaines, mais comme vous savez tous, c'est sans fin. Donc voilà. On y va? Alors moi, j'aimerais bien un peu les vins, parce que je veux bien. Sinon, je vais être puni. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va. Merci beaucoup. Hop. J'ai goûté les vins avant, elles étaient à peu près toutes proches, donc c'est intéressant de voir. Le Coteau d'Étreuil, d'abord, première chose, il faut vraiment aller voir cette magnifique parcelle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller vous promener un petit peu le long du Layon et de voir un petit peu cet éperon rocheux un peu spécial d'Étreuil qui fait 2,50 hectares, qui ici et là offre différentes topographies, différentes géologies. C'est extrêmement riche, un microcosme de vie, d'herbes sauvages, on va dire de faune et de flore, qui en font d'ailleurs un lieu qui a été protégé. Bellargus, le nom donné par Yvan à la reprise du domaine en 2018, c'est le nom d'un papillon que l'on trouve sur cet éperon et sur cet endroit vraiment paradisiaque. D'ailleurs, c'est très beau d'un point de vue touristique, il faut aller le voir parce que c'est aménagé justement pour qu'on comprenne un petit peu la faune, la flore et de tout ce qui se passe dans cet endroit. Évidemment, c'est un endroit assez héroïque pour faire du vin. La topographie est sérieuse. Il y a des pentes qui sont importantes et sur lesquelles, évidemment, la difficulté du travail de cet écrin rend la chose encore plus difficile à faire. Et bien entendu, le sol à roche, en direct qui est en sous-sol, avec un socle plutôt géologique de spilite ou alors de poudingue, va donner des très très faibles rendements. On parle de 10, 15, 20 hecto-hectares, et c'est la fête au village quand on fait 20 hecto-hectares dans ces terroirs-là. Hein. La moyenne, c'est 18, 15, 17, etc. Et bien entendu, quand le gel ne s'occupe pas de tout ça. Donc, en termes de productivité et d'équation économique, sincèrement, le coteau des Trailles, c'est un challenge. Ensuite, évidemment, on parle des hauts lieux de l'Anjou noir. Je vous rappelle qu'on est sur ces socles géologiques un petit peu spéciaux où on est à la frontière entre les différents massifs français. Je vous ramène à votre cours de 5e 2 en géographie, mais globalement, la géologie de l'Anjou noir, c'est de type métamorphique et d'origine un petit peu volcanique également. Des socles de spilite, Emmanuel Augereau, par exemple, pour ceux qui suivent le domaine, en fait un petit peu. C'est intéressant de voir comment le volcanisme donne de la salivation, du fumé, des sensations, de la puissance et de la structure à certains vins. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes socles géologiques de schiste que l'on trouve un peu plus précisément sur Savenière ou autre. Mais ça donne quand même des très grands vins et il faut évidemment regarder avec beaucoup d'attention le coteau des Trailles dans la mesure où moi j'y vois d'une certaine manière une construction de très très grands vins à très grand potentiel de structure et d'évolution un petit peu également en cave. Alors, on va comparer deux millésimes qui seront, intéressants. Le 2010, qui était donc une année en Loire, plutôt intéressante pour la concentration maturité-acidité, mais pas forcément l'année parfaite non plus. Il faut revenir un petit peu à cette... si vous faites la synthèse des 2010 de Loire, vous apercevez qu'ils ne sont pas tenus aussi bien que ce qu'ont été les 2008, les 2002... des années en fait qui truffent et qui ont des trajectoires merveilleuses. On a peut-être brûlé un petit peu de la phase aromatique des arômes pendant la période de vendange. Et cette vendange 2010, on va la commenter aujourd'hui, on va la déguster surtout. Mais vous allez voir, ça commence à basculer un petit peu sur l'oxydation. On va goûter évidemment le 2020 à côté. Hop, je me sers un verre avec vous. Et cette comparaison va vous permettre un petit peu de mesurer deux choses côte à côte. La première, c'est les équilibres alcool de ces deux vins qui sont un petit peu opposés. Évidemment, le réchauffement climatique, la précocité des vendanges touche beaucoup, beaucoup l'Anjou noir, dans la mesure où je rappelle qu'on est sur des socles qui retiennent très peu d'eau. Et bien sûr, les millésimes qui se sont succédés ont été des millésimes de stress hydrique important, 2018, 2019, 2020. Franchement, c'est des années avec très très peu d'eau, même 2022, 2023. Donc c'est des endroits qui retiennent très très peu l'eau et sur lesquels en fait, on concentre plus hein, quand il fait relativement chaud et quand on n'a pas d'eau. Et le Trail 2020 que vous dégustez est à 14 d'alcool et le Trail 2010 est à 13. Alors ça c'est un détail intéressant parce que on va rentrer dans un débat et peut-être que vous pourrez y participer. Moi, j'aime les vins de construction acide, parce que je suis né dans les années 80 et que j'ai grandi en Bourgogne, donc mon palais est plutôt de latitude nord. Et on dit toujours que quand on est monté un petit peu en degré sur certaines régions du nord, eh bien, on perd la fameuse fraîcheur ou le fameux éclat de la Loire ou autre. Pour moi, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on mûrit plus un raisin, on concentre aussi d'autres choses. Et on concentre donc des sels minéraux et on concentre aussi de l'acidité. Et donc, on va essayer de voir un petit peu deux choses dans la comparaison des deux vins qu'on va commenter dans quelques instants. C'est de se dire, finalement, il y en a un qui va avoir un coffre beaucoup plus glycérique, beaucoup plus généreux, beaucoup plus sphérique. Et le deuxième va avoir un corps beaucoup plus fuselé autour de la constriction acidulée. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Dans les vins de légende, dans les vins qui sont nés dans les années 40, dans les 30 et autres, les vins naissaient toujours avec des hyperboles structurelles. Château Cheval Blanc 47, ça fait 14,8 d'alcool. Point. That's it. Et donc, je veux bien qu'on chipote autour de la fraîcheur de ci, du classicisme de ça et autres, mais quand on parle de trajectoire et de potentiel de garde, je pense que quand on est plus mûr, on concentre un peu plus aussi certains messages. C'est aussi la détresse des champenois aujourd'hui, si vous faites la synthèse. Les 2018 sont nés avec des équilibres à 12, 12,5 chez les artisans vignerons, et puis après une prise de mousse qui fait des 13,5 à la fin. Et en fait, c'est panique générale, parce qu'on se dit, bon, bah, en Champagne, c'est pas normal et autres. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on a gagné et qu'est-ce qu'on a perdu. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Moi, je ne suis pas aussi alarmiste sur le réchauffement climatique et par rapport aux structures, parce qu'à partir du moment où on a des très hauts pédigrés de lieux, on va en parler un petit peu tout à l'heure, on sait que quand on a un vin qui est donné de nature sphérique et dense avec beaucoup de glycérol, avec les années qui passent, il se recentre toujours sur son équilibre structurel minéral. Et en fait, c'est pour ça que Châteauneuf-du-Pape ne fait pas des vins qui sont à 15 ans puissants et structurés et solaires. C'est pour ça que en blanc, par exemple, et qu'on les retrouve ou là, ou que les ermitages blancs sont beaucoup plus gracieux, beaucoup plus subtils et beaucoup plus fins. Et surtout, après, qu'on récupère du sel et de la salivation en cœur de langue et pas simplement de la salivation acide sur les côtés de la langue, on sait que cette générosité tactile va finir par se minéraliser, qu'on va gagner un petit peu ce qu'on a perdu en largeur. Phénomène inverse sur les vins de structure acide, mais là c'est intéressant, on n'a pas de terroir calcaire en blanc à comparer à côté, mais globalement quand on est sur des calcaires, un vin de structure acide va gagner en graisse qui va perdre en acidité, en sensation. Ce n'est pas tout à fait vrai sur les terroirs de type métamorphique, et on va goûter le 2010, mais on va quand même gagner aussi un petit, enfin, on va apaiser la puissance. Alors, on vous ferez la synthèse un petit peu de ces deux vins qu'on va commenter, mais pour moi il y en a un qui a une meilleure trajectoire d'évolution. Vous allez voir, pour moi, c'est 2020, clairement. Et on va voir ce qui manquait peut-être au 2010 pour être encore avec nous, encore avec plus d'éclat aujourd'hui. On y va ? Alors, premier vin 2020 sur le Coteau des Treilles. On va commencer par celui-là pour, évidemment, poser des mots sur des sens. Ce que j'aime bien dans la vinification au domaine de Bellargus, depuis le premier millésime des Treilles que j'ai été... un des premiers à acheter d'ailleurs chez Chef-d'œuvre, on a spoté un petit peu l'envie et la trajectoire. Il faut savoir que les vins des Treilles font 24 mois d'élevage. Ce n'est pas commun sur la Loire. La Loire a des courbes de, on va dire, de rotation, enfin des rotations qui sont beaucoup plus rapides sur leur mise en marché. J'aime bien l'idée que les vins qui ont de l'acidité et de l'énergie, de la puissance, du fumé, des choses comme ça, se patinent pendant une deuxième année en barrique. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne boise pas. On n'est pas là pour boiser ou pour épauler, on est là pour apaiser. Parce que quand on a des raisins qui naissent avec 15 hecto-hectares dans un coteau un peu génial comme le Coteau des Treilles, eh bien, il faut justement tempérer la matière, il faut la poudrer. C'est un peu le principe du Clos-Rougeard. Quel est le point commun entre un Clos-Rougeard, un Rayas et un Vega Sicilia? C'est toujours ce que je dis aux clients qui parlent de vin de légende comme ça. C'est que, un, on a une matière concentrée, intense et dense au départ, mais surtout, les vins ne sont pas commercialisés trop tôt. Donc déjà, on apaise la matière en cave et après, on la commercialise, voilà, ici, à presque 4 ans après la récolte. C'est quand même pas commun. Et je vous invite à être concentré sur ce phénomène parce que les vins de Savenière, en général, ou de ce secteur dans l'Anjou Noir, sur les schistes, on n'est pas dans la grâce absolue sur les 2-3 premières années. Et il faut être patient un petit peu pour rentrer à travers. Ensuite, ce que j'aime bien, évidemment, mettre sur... ce que j'aime bien dans le nouveau style un petit peu du domaine de Bellargus, c'est qu'on patine avec des élevages qui ne boisent pas. On va apporter l'amandé, le côté un petit peu gourmand à l'élevage, mais on n'est pas du tout sur des élevages vanillés, sur des élevages toastés ou sur des élevages avec une réduction un peu travaillée ou autre. On arrive à retrouver un peu les messages de nèfles, de coings, de poires fraîches, du chenin, et je trouve que la matière est relativement préservée. Vous l'avez là, cet univers un petit peu poire, finement biscuité, vanillé, etc. Aromatiquement, on ne devine pas les 14 degrés. Je trouve qu'on n'a pas d'ester alcoolique chaud. On fait passer le glycérol avec une certaine grâce. Le problème des millésimes un petit peu solaires en Loire, c'est que ben, effectivement, plus on a de glycérol, plus on gomme l'effet terroir. Hein. Et souvent, on a des bouquets aussi qui sont un petit peu plus chauds, plus chaleureux. Là, je suis assez charmé, moi, en tout cas, quand je déguste ça. C'est un millésime qui, derrière 2019, qui était une année écrasée par le soleil et très dense et très concentrée, remet peut-être un peu le curseur de là où il est normalement sur ces parcelles et sur ce secteur de l'Angenois. On y va en bouche. Alors, je vais reprendre mon petit crachoir, je veux bien, parce que sinon, je ne vais pas terminer la présentation. Donc un vin qui a, vous allez voir, on va parler beaucoup de contraste aujourd'hui parce que les vins qui vont venir derrière seront aussi dans cette idée du contraste. Ce qui est intéressant dans la richesse sensorielle de ce vin, c'est qu'évidemment on attaque par un volume assez expansif, crémeux, quasi bourguignon on va dire dans le nappant et la dimension un peu sphérique. On sent la patine des barriques, Taranceau pour la petite anecdote. Ensuite, on sent le cœur bien acidulé. Du chenin et de sa variété, les chenins ici gardent un peu leur énergie. Mais après, ce qui est intéressant, et c'est là peut-être qu'il faut se concentrer, c'est ce qui se passe sur le creux de la langue, où on a cette impression un petit peu de l'extrait sec, de cette concentration particulière. Moi, ce que j'aime dans ce vin, c'est qu'en rétro-olfaction, je n'ai pas de souffle chaud, ni de rémanence sur la chaleur ou la dimension solaire de l'année et du contraste. Quand on déguste ça, on se dit, c'est structurel, mais c'est à la fois concentré et on sait comment ça va vieillir. Et il faut donc, je vous ramène un petit peu à la réflexion de tout à l'heure sur les très grandes années, les très grands vins des années 40 qui ont vieilli et autres, ou les grands champagnes, il faut à la base avoir une concentration dans le raisin. Et il faut que ça soit bien mûr, qu'on soit allé jusqu'au bout du rêve. 2023, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du rêve, typiquement. Les raisins étaient tellement chargés, tellement riches, tellement gros et pulpeux, avec un rapport peau-jus défaillant, ils ont éclaté et en fait, on n'a pas pu faire la magie d'une année concentrée. Mais je ne sais pas comment vieilliront les 2023, on les commentera dans quelques années, mais globalement, une belle année, c'est d'abord une capacité qu'a le raisin à concentrer évidemment tous ces messages. Vous aimez ou pas? Pas mal, non? Alors. Exactement. En fait, la bonne question, Rémi. L'intéressant, c'est quand on est sur des très très petits rendements, on a évidemment cette concentration de l'extrait sec du raisin qui va limite apporter, alors avec la peau ici, une petite astringence, une petite limite tannicité, mais qui va apporter ce caractère sapide qui va beaucoup tirer la salive sur le creux de la langue. Et ces sensations un peu sapides sur le creux de la langue, ce n'est pas les mêmes sensations que l'acidité que vous avez sur les côtés, ce n'est pas les mêmes messages. Donc moi, je trouve que ce vin est relativement harmonieux dans la mesure où il conjugue un petit peu tous les éléments de la longévité, c'est-à-dire le glycérol, la concentration. On sait que c'est travaillé de manière assez réducteur, pas trop, c'est assez protégé, on sent que ça va vieillir comme il faut, etc. Et puis que derrière, on va avoir une très jolie trajectoire. Il faut goûter en ce moment les 2018 qui étaient le premier millésime, d'ailleurs Paris totalement osé, parce que quand ils ont signé le rachat de Bellargus, c'était à l'aube de la vendange 2018. À l'époque, il se passait, il faut quand même se ramener ce qu'était 2018, c'était une année un peu productive, mais à la fois pas trop dans la partie angevine, mais c'était une année productive, chaude, précoce, et dans laquelle, évidemment, il ne fallait pas traîner pour aller récolter les blancs, et puis il ne fallait pas trop traîner pour... Et si vous goûtez aujourd'hui les treilles 2018, vous apercevez déjà de l'évolution et de la trajectoire des vins du domaine qui, pour moi, sous l'ère d'Yvan Massonnat, propose des trajectoires meilleures que celles de l'époque de Joe Piton. Mais que Joe Piton, j'ai été un des premiers à aller visiter dans les débuts des années 2000 son domaine et ce fameux Coteau des Treilles qui était déjà à l'époque assez spectaculaire en dégustation. Mais dans le spectaculaire contemporain, je préfère la dimension actuelle. Alors, on va parler de 2010, si vous voulez, pour comparer, parce que comparer, c'est comprendre. Avec une robe, vous l'avez vu, or un peu prononcé, un petit peu limite, un petit peu. On a commencé une petite cassure de la robe. On sent encore un petit peu l'oxydation qui va arriver comme ça, avec cette orangée un petit peu ambrée qui se mêle au milieu des messages. Au nez, alors, on a trois bouteilles. Elles sont à peu près similaires. Je pense que tout le monde goûte à peu près la même chose. On sent quand même qu'on a commencé à basculer du côté obscur de l'évolution, dans la mesure où on n'a pas l'éclat du fruit. On aime bien les vieux millésimes, mais à condition qu'on y retrouve quand même un petit peu de jeunesse. Un grand vin, c'est la capacité qu'il a à s'améliorer dans le temps, à garder son fruit dans le temps. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment, quand vous goûtez des vieux millésimes, chercher encore un peu de jeunesse dans le millefeuille et dans la richesse aromatique qu'apporte le temps qui passe et l'évolution. Tout cela nous amène vers un nez qui est plutôt orienté vers la pomme cuite, la pomme au chaudron, le côté tatin, cette dimension un peu gelée royale peut-être aussi, vous savez, cette concentration des miels très forte, peut-être un peu plante médicinale qu'on retrouve beaucoup dans les chenins d'orange noir. Ce caractère corsé en fait des messages. Évidemment, on a un petit peu d'oxydation sur le côté pomme cuite, etc. On sent quand même la limite de trajectoire sur la partie olfactive de cette bouteille. Ça va ? Vous m'arrêtez si je parle trop. En bouche, évidemment, on retrouve une construction un peu différente. Première chose, on avait un point de moins en construction glycérolique en jeunesse. Et on avait peut-être certainement un pH un peu plus bas. On sent bien l'acidité saillante, on est rythmé, on est salivant, mais par contre, on manque d'étoffe. Et on n'a peut-être pas non plus la concentration naturelle qu'offre le 2020. Ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que le vin garde quand même pas mal de rythme et on va dire qu'il nous rappelle des souvenirs de dégustation. En tout cas, pour moi, c'est assez criant comme sensation et ça me rappelle les années 2000 pour les chenins de Loire. Mais il manque quand même un peu de netteté, un peu de pureté, peut-être un peu de réduction aussi. Enfin, j'aurais aimé que ce vin garde un peu plus de jeunesse pour être satisfaisant, totalement satisfaisant, en dégustation. Alors je salue évidemment le domaine qui amène ces bouteilles-là aujourd'hui et qui les fait déguster, etc. Mais c'est évidemment des bouteilles qui ont aujourd'hui presque 14 ans et donc et qui. Alors les bouchons étaient relativement propres et nickel, mais évidemment vous avez des individus qui évoluent plus vite que d'autres et particulièrement en bouteille. Mais en tout cas pour nous dire que quand je fais la synthèse de cette comparaison, je me dis peut-être qu'il vaut mieux un peu moins mais un peu plus étoffé au départ, pour qu'on ait des très très belles courbes de trajectoire, parce qu'on le sait dans la Loire, par exemple, quand vous prenez des millésimes jeunes de Coulée de Séran, je prends une année comme 2007. 2007 Coulée de Séran, c'est 15 d'alcool. À la naissance, quand je goûte ça, moi, je sens beaucoup de puissance, limite des esters alcooliques très chauds, etc. Je me dis, mon Dieu, ça va être intorchable, trop chaud, trop riche, trop mûr. Vous regoutez maintenant et vous ravalez votre copie parce que vous avez compris en fait qu'une grosse partie de la minéralisation de la matière a commencé à s'opérer et à 15 ans, on obtient l'équilibre salivant, les messages s'éclaircissent, le souffle alcoolique et chaud disparaît, etc., etc. Et donc cette comparaison côte à côte de ces deux vins, elle me ramène moi peut-être à une réflexion pour dire la maturité alcool, c'est un grand débat aujourd'hui et peut-être qu'on se trompe de débat. Ce qui compte, c'est l'extrait sec minéral, la concentration des raisins et la vinification dans un process qui permet d'être sous un milieu réducteur. Et réducteur maintenu, contenu, pas réducteur provoqué, etc. Je veux dire, même avec 24 mois d'élevage, le Treille 2020, il n'est pas... c'est pas un stéréotype de travail sur lit, etc. Donc, ce que j'aime bien dans ce que l'on déguste aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère, en tout cas pour cette parcelle. des trails, et elle nous apprend un petit peu que, évidemment, la concentration des dernières années nous offre peut-être les meilleurs messages que ces territoires ont pu nous offrir. Il faut savoir qu'il y a d'autres millésimes à déguster au domaine, hein, vous en avez peut-être en bas, j'ai pas vu ce qu'a apporté Yvan, mais si vous allez redéguster, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur ce que je viens de dire? Est-ce que, évidemment, ça reste totalement personnel comme analyse, et je vous laisse évidemment rebondir sur ça. Mais, non?
Dans 10 ans, le 2020, il sera très différent dessus.
Totalement. À mon sens, déjà, sur la... Il y a plusieurs choses. Hein. Sur les choix d'élevage et sur les choix des contenants de fermentation, on a gagné en pureté. On a gagné en pureté parce que dans la Loire, il y a plusieurs écoles. Il y a eu l'école des anciens, puis il y a eu l'école un peu plus contemporaine. On pourrait comparer à Mont-Louis, à Vouvray, etc. etc., etc. Moi, je pense que les contenants qui sont utilisés aujourd'hui au domaine de Bellargus sont beaucoup plus nets, beaucoup plus propres et beaucoup plus sains que les contenants qui étaient utilisés par Jopiton à l'époque. Je pense aussi que la couverture sulfitique de l'époque était légère. Maintenant, elle est plus contrôlée. Et je pense qu'elle est basse là, mais elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'on est dans la précision, alors qu'on n'avait pas peut-être ce degré de précision de l'air sous l'air Jopiton. Ensuite, bien sûr, on a le coteau des Treilles qui reste un des spots. Et il faut comparer toute la gamme côte à côte pour comparer, évidemment, voilà, la suprématie des Treilles dans l'équation. Mais si vous allez au domaine de Bellargus, allez goûter. Il y a aussi maintenant les parcellaires de quart de chaume qui sont assez intéressantes, vinifiées en sec, à comparer, les quarts, les veaux, etc. Mais allez plonger un petit peu là-dedans pour comprendre. Et pour répondre à la question, oui, je pense que à 10 ans, ce 2020 offrira in fine un millefeuille aussi complexe sur le côté coin, nèfle, gelée royale, etc. Le miel, tout ça va s'installer. Mais je pense qu'on aura gagné, on aura étoffé en gras sec cette construction de bouche qu'on n'a peut-être pas sur le 2010. Et on aura le sel en plus. Et donc, pour moi, les plus grands vins, ils sont à venir et pas simplement... Voilà. Mais c'est vrai pour beaucoup d'épisodes. Si je commentais toute la décennie 2000 dans la Loire, je buvais un Vouvray sec de chez Philippe Foreau 2008 au ski. Là, c'était très sympa. Mais on trouve la limite du chenin à 12,5, 13 d'alcool quand il a 15 ans. Elle est encore... avec du sucre résiduel, un demi-sec ou un moelleux, la trajectoire continue. Mais sur les secs, elle commence à s'effondrer. Et moi, j'observe que tous les domaines qui ont commencé à vinifier en petites barriques bourguignonnes ou à travailler un peu à la bourguignonne, comme Jacques Hiblot, etc., les vins ont beaucoup mieux tenu pour les vins secs avec 20 ans, 25 ans de recul. Et donc, je pense que la précision dans les barriques, la netteté, la pureté et bien sûr le process de vinification avec un peu de concentration ici va nous donner des trajectoires différentes pour ce domaine en tout cas et la parcelle que vous commentez. Arnaud ?
Tu as évoqué les millésimes qui truffent. Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'un millésime truffe en Loire ? C'est la contradiction des messages, c'est-à-dire maturité, acidité. Ce qu'il faut, c'est pour qu'un millésime truffe, il faut de la lumière. Il vous faut... tout le monde a cette photographie en tête. Un millésime qui truffe, c'est quand vous emmenez vos enfants à la rentrée en septembre à l'école, il fait froid, mais super beau. On a des nuits fraîches, des vents du nord. Et bien, si on prend 2008, typiquement, c'est une année, je pense, qui 2008, sur tous les blancs en France, et pas forcément dans le sud, mais globalement, tous les blancs de latitude nord, truffent. Les Riesling truffent, les 96, pareil. Les 96 Riesling truffent à fond, etc. Donc, ce qui fait truffer un vin, c'est ce côté écart-type entre lumière, donc photosynthèse, mais acidité préservée par la nuit. Et concentration des messages et concentration de la maturité. Et ça, qu'est-ce qui truffe ? On a 2008, 2002 un petit peu. On a, je pense que dans les dernières années, alors faut faire vignoble par vignoble après, parce que pour qu'un vignoble truffe, c'est vraiment une équation, c'est pas national, c'est-à-dire que il y a... Si on compare 2008 en Vallée du Rhône catastrophique et Vallée du Rhône et Bourgogne ou Champagne, etc., ça n'a rien à voir. Donc en fait, il faut. Mais c'est dur à avoir la truffe dans un vin. Il faut qu'on ait ces deux phénomènes réunis. Donc forte maturité, forte acidité. Et peut-être un peu de calcaire. Je pense que ça truffe plus sur le calcaire que sur les schistes. Mais ça, c'est une appréciation personnelle. On continue ? Alors, on va comparer, si vous voulez bien servir, le domaine de l'art avec deux millésimes de Stéphane et Christine de Renoncourt. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de spotter un petit peu la manière dont cette propriété des côtes de Castillon, il faut aller voir. Déjà, aller voir le terroir, c'est absolument spectaculaire. Vous devez comprendre un peu la topographie de Castillon pour comprendre pour poser les mots sur des sens. C'est la petite Toscane. Vous allez vous promener, c'est hyper végétal, la région, hein, je parle. Pas de très très grosses parcelles sur des plateaux et tout ce qu'on peut imaginer vraiment sur un échiquier bordelais. On est vraiment vallonné, on est des petites parcelles, des petits bosquets, plein de petites choses comme ça, beaucoup de végétation. Et pas mal de topographie, et ça grimpe. Franchement, ça grimpe, les côtes de Castillon. Et il faut aller voir aussi la taille du chai, qui est à peu près la taille de la pièce là, un peu plus long peut-être, en forme de voûte. On est sur un chai d'équilibre bourguignon, où on fait 25 000 quilles par an. Le domaine de là, ça a été un petit peu le laboratoire, évidemment, à idées et à réflexion de Stéphane de Renoncourt, qui, vous le savez, bien sûr, a accompagné beaucoup, beaucoup de très, très hauts domaines dans leur courbe de trajectoire, dans leur réflexion agronomique, dans leur réflexion végétale, peut-être sur leur mode d'extraction, de vinification, du boisé également. Je pense qu'il a eu un regard paysan au départ sur la matière, un respect peut-être aussi de la nature un peu précoce par rapport à... on va dire, au renouveau actuel de la région de Bordeaux. Et puis, il a été un fervent défenseur du Cabernet Franc, un peu avant les autres, avant-gardiste. Et les proportions de Cabernet Franc accrues à Vieux-Sertan, à Pavie-Maquin, à tous ces domaines qu'il a accompagnés, etc. Et évidemment, c'est Stéphane. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la patte du domaine de là, mais surtout dans la patte des vins de Stéphane de Renoncourt, c'est qu'on a remis beaucoup la chair et le fruit... un fruit pulpeux en avant, et peut-être pas, on a voulu faire des vins qui ont vraiment une texture juteuse au lieu de faire des vins structurels, concentrés, boisés. C'est peut-être un des premiers à être sorti du stéréotype des années 90, un peu école Michel Roland, boisé et compagnie, pour offrir un contraste plus orienté sur la jutosité et le fruit et la netteté du fruit. Mais Stéphane l'avoue également, sur les toasts, sur l'intensité des barriques et sur le relief que l'on ressent aujourd'hui dans les vins, il a aussi baissé le curseur à partir du début des années 2010. Et donc, on connaît cette trajectoire bordelaise où aujourd'hui on revient à des vins plus digestes, où on a des vins beaucoup plus fins. Moi j'applaudis beaucoup ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, parce que même si aujourd'hui ils traversent une période difficile économique, et pour beaucoup de petits châteaux c'est compliqué, etc., on a quand même compris que tout ne se faisait pas par concentration et boisage intense. Et surtout, il faut quand même concentrer un peu les messages. On ne fait pas de grands vins à 60 hecto-hectares n'importe où. Et c'est un message, hein. 2023 sera un millésime où on va vraiment, vraiment voir la différence. C'est-à-dire que ce qu'on fait de beaucoup de raisins, on va le sentir. C'est le problème des années productives. Et il faut être attentif à ces années-là parce que ça nous apprend qu'un grand vin, ça naît d'une concentration de raisins relativement mesurée. Mais à Sancerre, cette année, en 2023, on a fait 100 hecto-hectares sur la moyenne de l'appellation. Et 100 hectares chez les meilleurs domaines en biodynamique, vous connaissez tous, ou pas, mais pas en biodynamique. Mais le sujet est quand même sur la qualité de la matière et sur la concentration de la matière. Donc on revient à notre histoire, on va comparer deux domaines de là, de deux très belles années qu'on peut comparer à Bordeaux, c'est intéressant, parce qu'elles sont structurellement assez proches, C'est quoi une grande année à Bordeaux? Ben, c'est une année où on concentre évidemment la matière première et on a, on va dire, de la sève, de la puissance, de la structure, beaucoup de complexité dans les messages. Mais c'est une année où on a aussi de l'éclat sensoriel acidulé. C'est-à-dire qu'on est mûr, mais on n'est pas rôti. On est sur ce fruit rouge concentré, mais acidulé. Mais c'est surtout un dernier message qui est important, c'est le calibre des tanins. Et on peut faire des grands vins de structure puissante avec de l'acidité, mais la question c'est comment on extrait les tanins et comment est-ce qu'on est allé jusqu'au bout du rêve en termes de maturité de peau et de pépins. Et dans les très belles années que l'on peut entre guillemets rassembler comme ça sous ce chapeau, on a 2010, on a 2016, on a 2019, où on est dans l'homogénéité, vous voyez ce que je veux dire, de la région. Et c'est la même chose en Bourgogne, hein. Il y a des années où globalement on a une forme d'homogénéité, pareil pour la vallée du Rhône, etc. Mais dans les autres années, il faut trier, il y a de l'hétérogénéité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va se comparer sur deux socles qui sont à peu près équivalents en termes de... Alors ils veulent vraiment pas me servir. Hein. Les vins, merci. Donc, deux choses vont être intéressantes à comparer. Donc, deux grands millésimes au domaine de là, des rendements qui sont relativement maîtrisés. Hein, au domaine, on fait entre 25 et 35 hecto-hectares en moyenne sur cette propriété. C'est là que naissent les grands vins. Et on va avoir un phénomène intéressant, c'est qu'on va avoir floralisé et aéré un petit peu les matières sur le 2019. Que le 2010 peut-être n'avait pas, par la présence accrue de Cabernet Franc. Il faut savoir qu'à partir de 2014, une grosse proportion de Cabernet Franc est rentrée dans le domaine de là, c'est-à-dire qu'on est monté de 20 à peu près 40%, et des fois un peu plus sur certains millésimes, ça dépend un petit peu. Stéphane adore le Cabernet Franc, s'il faisait le domaine, il a même 7 ou 8 Wine Globe de 2017 à aujourd'hui, où les vins sans soufre sont dans le verre et vous pouvez les goûter. Comme ça, donc vous pouvez goûter un 2017 à 6 ans d'élevage en wine globe pour comprendre la minéralisation de la matière, comment est-ce que le Cabernet Franc évolue dans un contenant neutre, sans soufre. C'est vraiment intéressant et donc il adore travailler sur ce détail. Ce que cherche Stéphane aujourd'hui dans les vins qu'il accompagne, mais surtout dans son vin ici au domaine de là, c'est d'éclaircir les messages et de rendre les bouches plus digestes et plus fines, sans les simplifier trop. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, comment on peut faire passer la même émotion et la même persistance sans diminuer la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si un grand pâtissier voulait désucrer un dessert tout en restant tout aussi intense et fin. C'est pas facile à faire. On va comparer les deux. L'idée, c'est que on est à droite la promesse de 2019, très grande année. Pour moi, en France, 2019, c'est la plus grande année dans l'Hexagone depuis 1990. Si vous faites la synthèse de tous les vignobles, la Corse, la Provence, le Bordelais, la Loire, bon la Loire 2019, ils ont eu un petit peu chaud dans l'Anjou, on l'a vu tout à l'heure, mais globalement ça va, hein. S'ils sont tous comme ça, je les bois tous. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est 2019, super année ligérienne pour le Mont-Louis, Saumur et autres, on a fait des chenins magnifiques parce que concentrés. Les Sauvignons ont eu un peu chaud en 2019, je l'avoue, à Sancerre, mais ça, c'est aussi, on ne peut pas gagner à tous les coups. Les Riesling sont immenses, la Bourgogne a fait des très très grands vins. Les Champagnes, tous ceux qui ont goûté les bases 19, on est en larmes. Et tous les millésimes 2019 qui vont sortir, c'est incroyable. Donc si vous faites bien le tour de la France, à part les Côtes-Rôties qui ont un peu eu chaud et Châteauneuf aussi, mais globalement, ça va être un grand année, c'est une super année. Et j'aime cette idée qu'on soit homogène, partout en France et même en Italie, autour de cette vendange. Alors c'est quoi la qualité d'une grande vendange? Ben, on va la goûter. Alors vous allez noter, hein, la robe du 2010 est beaucoup plus opaque que la robe du 2019. C'est une première trajectoire, c'est quelque chose que vous verrez de plus en plus. On extrait moins, on fait du thé maintenant sur les vins rouges. On infuse au lieu d'extraire, première chose. Deuxième chose, on floralise, on amène beaucoup plus de pivoine séchée, de fleurs, de violettes, de notes plus florales dans les vins de la propriété que ce que ça n'a eu été. Après, ben là derrière, ce que j'aime, c'est qu'on a le bois sans les stigmates du bois, on ne toaste pas, on ne fume pas, on n'est pas sur quelque chose de, Mais par contre, on apporte un peu l'épice et on apporte, on va dire, la petite pointe de girofle, de fleurs séchées, de peau pourrie. On a rendu en fait accessibles les très grands vins de haut pédigré à Bordeaux sur les dernières années en fait. Depuis 2016, globalement, on a quand même vachement levé le pied. Alors évidemment, on va goûter ça. Plusieurs paramètres. On est mûr, mais on est salivant. On n'est pas végétal. On a un peu la feuille de cassis, mais le Cabernet Franc jeune ou le Merlot, ça trahit toujours un peu comme ça. J'ai pas de poivron, j'ai pas de pyrazine, j'ai pas de notes comme ça qui sont aromatiquement prégnantes. Mais ce que j'aime bien dans ce vin, c'est qu'il va nous amener un petit grain comme ça, un grain assez talc, assez poudré. Et puis, les messages sont relativement persistants sans être structurels. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tirer beaucoup sur la matière pour en faire quelque chose de profond en sensation. J'aime bien ce vin parce qu'il a aussi une forme de discipline. Je rappelle que 2019, en théorie, ils sont au placard, verrouillés, triple tour, en disant « frozen in time, grand millésime, on attend ». Pour moi, un grand vin doit être très lisible jeune et très lisible plus tard. Je ne pense pas qu'il y ait de miracle où le truc est totalement verrouillé à triple tour jeune, puis après ça devient la folie et tout ça. C'est une époque qui est révolue, peut-être qu'il y a eu ça avant, et j'ai connu les vins intordables jeunes et qui étaient merveilleux vrais, et particulièrement dans les vinifications qu'on faisait différemment avant. Hein. Chez Taïwan, on avait beaucoup de domaines comme ça, où on faisait des vins intordables jeunes, et puis 20 ans plus tard, on se disait « waouh ». Moi, je pense que les vins peuvent être gracieux jeunes, ils peuvent être incroyables toute leur vie, et j'aime bien, je cherche moi personnellement l'équilibre entre la pulpe et la fraîcheur, la buvabilité, puis peut-être aussi l'accessibilité, parce que ça correspond déjà un peu plus aux us et coutumes de consommation contemporaine, mais surtout après, ça permet de ne pas se casser les dents sur les vins. Voilà, je vends très peu, mais en tout cas, chez chef d'œuvre de vin pour lesquels je me dis, oui, vous savez, ces bons vieux pommards intordables là, oui, ça sera bon dans 20 ans. Ouais, bon, enfin bon, dans 20 ans, je commence à compter quand même un peu aussi, moi aussi, donc voilà. Vous aimez ou pas? Alors vous noterez, hein, il n'y a pas trop de vanilline, pas trop de whisky lactone, pas de sensation trop, exogène sur la sensation boisée du vin. Peut-être qu'au départ, dans les années 2000, Stéphane en amenait un peu plus. Franchement, on est en train de chipoter parce que quand on goûte les vieux millésimes aujourd'hui du domaine, notamment 2001, qui est une fusée Ariane, c'était beaucoup plus extrait et beaucoup plus boisé à l'époque, mais bon. Alors évidemment, les Côtes de Castillon, c'est du calcaire, hein, ça va donner du sel, ça va donner de la sapidité, du minéral comme ça. On n'est pas sur le même pédigré de lieu que Saint-Émilion sur le plateau calcaire, mais honnêtement, pour 39 euros pour un particulier, ça reste relativement abordable. On commence le 2010. Bon, les tanins sont encore un petit peu là, évidemment, on a la jeunesse sur le 2019. Hein. En 2010, beaucoup plus opaque, beaucoup plus dense. On extrayait plus à l'époque. Plus de Merlot. Un univers qui est peut-être un tout petit peu plus sur le zan, le fumé, le côté un peu torréfié. Un univers qui bascule un tout petit peu sur l'automne, mais sans totalement assumer sa entruffée. Vous avez goûté le 2012 en bas? Je vous invite à aller goûter 2012. Hein. C'est une truffe noire posée dans un verre, dans un liquide. C'est un truc de fou. Donc il faut goûter ça pour comprendre. On a évidemment un tout petit peu les sensations de tabac, de notre un petit peu de boîte à cigares, de choses comme ça assez nobles qui arrivent derrière. Mais on arrive à garder ce fruit assez, assez jeune quand même. Le caractère un peu kirché d'une cerise un peu macérée et tout ça. Alors, à votre avis, les deux vins font combien de degrés chacun? Lequel des deux a le plus de structure alcool? Le 19 fait 14 degrés. Vous le sentez les 14 degrés dans le 19? Moi, j'ai pas un pet de sensation chaleureuse. Et le 2010, qui me fait 13, mais sensoriellement parlant, je lui aurais bien mis un petit bonus, moi. Hein? Il fait peut-être plus chaud. Et c'est intéressant, ça nous ramène peut-être à la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur le duo Bellargus. Donc une matière un peu plus dense ici. On sent beaucoup plus d'extraction. Un rapport entre la matière polyphénolique et le jus qui est très différent. On a été beaucoup plus chercher la concentration. On commence à arriver dans la grâce quand même, parce qu'on sent que les barrières tombent. Ce qui est intéressant avec le temps, malgré le fait qu'on soit sur un amésime de construction, de vivacité, de structure et autres, c'est que ben, bien sûr le temps sculpte un petit peu la matière, va poudrer, va adoucir, va rendre les messages beaucoup plus disciplinés et beaucoup plus fins. Mais quand même, on se dit, purée, il y en a encore un petit peu sous la chaussette. Hein. Et évidemment, c'est la magie des grands vins de la région. Peut-être que les derniers millésimes, avec un peu plus la grâce qu'on leur apporte en jeunesse, va les rendre plus aimables, jeunes. Mais moi, je pense que les grands vins de la région, c'est à 20 ans qu'on a vraiment l'éblouissement. J'ai bu un Lascaz 99 à la maison à Noël, sincèrement, c'était une tuerie absolue. Et pourtant, à l'époque, on était très critiques sur le millésime 99. On l'a descendu. Ça nous ramène à tellement d'humilité, ce métier, mais c'est vraiment cette idée que les Cabernet Sauvignon ou les Cabernet Franc, c'est quand même des vins de structure, de tempérament, qui ont besoin de temps. Du temps, du temps, du temps, du temps, parce que c'est là que ça sculpte, c'est là qu'on floralise, c'est là qu'on devient plus fin et plus... En fait, pour moi, les très grands vins sont ceux qui font passer plein de messages sans dureté et sans caractère irrévérencieux. Et ça m'amène à la transition avec le troisième vin qu'on va servir tout de suite, parce qu'il faut qu'on tienne le timing. La réflexion derrière sur les vins de Pibarnon qu'on va déguster derrière. Vous savez, on a toujours été de manière assez générale, on a toujours tendance à peut-être encore à camper dans des vieilles croyances. Le Sud fait des vins structurels qui ne vieillissent pas, ou qui le Bandol est un cépage dur, puissant, épicé, réducteur. Tous ces trucs qu'on peut apprendre dans des bouquins et ou qu'on lit et qu'on se dit ouais bon, ok ça c'est pour dans 20 ans. Vous allez voir que ce qu'on va déguster là, ça va être une très belle leçon de comment on peut apporter de la grâce à quelque chose qui n'est pas gracieux au départ, pourtant avec des process qui normalement rendent les choses plus dures. C'est toute la contradiction des bouteilles qu'on va comparer aujourd'hui. Alors, Pibarnon, Eric de Saint-Victor pourrait le commenter beaucoup mieux que moi, mais ce qui est intéressant, c'est de souligner bien sûr la partie géologique du cru, un amphithéâtre merveilleux, beaucoup de calcaire. Franchement, l'endroit est assez féerique, il faut aller visiter. Et je pense sincèrement que les vins n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui ou aussi émouvants jeunes qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Avec une vendange, j'ai pris les deux feuilles parce qu'Eric m'a envoyé les deux feuilles. La vendange 2019, c'est 25 hecto-hectares, pas une goutte d'eau du printemps jusqu'à la vendange. En stress hydrique, je pense que c'est panique land. Hein. Et on se dit toujours, bah, s'il y a du stress hydrique, ça bloque, ça végétalise. Ça... Et le vin que vous allez déguster sur 2019, c'est 25 hecto-hectares, 100% grappe entière. Et alors la vraie question, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, Eric de Saint-Victor a compris qu'avec la grappe entière sur des années concentrées chaudes et précoces comme ça, on arrivait à peut-être un résultat plus fin que quand on est grappe et que les fermentations s'emballent et que les degrés sont plus marqués et qu'on est plus chaud et qu'on sent plus la chaleur. Donc la grappe entière, c'est peut-être aussi sur les rouges, bon, on le voit beaucoup, on en parle beaucoup, la Bourgogne est largement... étayer largement le sujet, mais la vallée du Rhône, on revient beaucoup à la Syrah en grappe entière, etc. Les grands grenaches en grappe entière de Châteauneuf également. Moi, ce qui m'intéresse évidemment dans tout ça, c'est la manière dont on amène la finesse florale et la fraîcheur dans des messages qui sont corsés, sudistes et puissants. Et donc, vous allez voir, le premier vin qu'on va déguster, le 2019, va être assez marrant à commenter. Et puis, ben, parce qu'il fallait ramener un challenger, ben, on a 2009, alors année un petit peu plus productif. 2009, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vendange, 2009, ça a fait beaucoup de raisins. C'était un 2018 en France, sur la partie nord, on va dire, en équation. C'était mûr, précoce, chaud et productif, y compris à Bandol. Donc la différence de rendement entre les deux vins, c'est il y en a un qui fait à peine 25 hecto-hectares, l'autre qui fait plus de 30 hecto-hectares. Ça dépend des cépages, évidemment. Petite différence entre 2009 et 2019, le passage en bio du domaine, qui a été officialisé en 2014. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Évidemment, deux vins qui vont proposer des sensations différentes en termes de relief et de gamme aromatique, dans la mesure où on va faire un peu comme le Mendela. Un vin beaucoup plus fin, beaucoup plus classe, jeune, 2019, et peut-être un vin un petit peu plus dans ses codes cuiré, épicé, chocolaté, balsamique, etc., des vieux Bandol. Si vous passez sur le stand de Chef d'œuvre tout à l'heure, on a amené un autre Bandol du domaine de Terre Brune 2003 pour que vous puissiez goûter d'autres trajectoires de la Mourvèdre dominante. Voilà. Donc, je fais en sorte que tout le monde soit servi, puis après, je commente rapidement parce qu'il faut que je termine à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur le domaine de là ? Parce que là, j'ai été assez rapide, mais j'espère concis et précis. Mais si vous avez des questions sur...
Il a commencé quand ?
Stéphane ? Premier millésime, je crois que c'est 99. Je vais lui poser la question, mais je à vérifier, mais je crois que c'est 99. La première vendange que moi, j'ai achetée, c'est 99. Non, le domaine de là, ce qui est intéressant, à mon avis, sur... c'est qu'il faut avoir en tête que des millésimes peut-être un peu moins structurels sont éblouissants. 2012 en bas, sublime, vous allez voir. Moi, je mise beaucoup sur 2014. Pour moi, c'est le premier millésime où Stéphane a mis beaucoup, beaucoup de Cabernet Franc. Et pour moi, il y a vraiment un truc dans le 2014. Sur les années plus structurelles, 15, 16, forcément, on est au niveau, mais on est encore très jeune. Bon, on commence par le 2009, si vous voulez, comme ça... Parce qu'il faut que je tienne, il me reste 5 minutes. Bon, une intensité colorante qui s'est un petit peu aérée, évidemment. Peut-être une matière comme ça qui laisse songer déjà un joli feu de cheminée, un plat automnal, de la truffe, à plein de choses. C'est la sagesse, le temps qui parle. Dans le nez, moi, je suis vraiment sur le fond de suite cheminée, sur le caractère un peu fumé, le côté un peu viande séchée, le caractère... Épicé, à la fois un peu mentholé d'un combo de belle maturité. Le fruit devient un peu confit, on a figué un peu, on a rôti. Moi, j'aimerais un peu plus d'éclat de jeunesse sur l'acidulé. Pour les trajectoires d'évolution, entre guillemets. Mais évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir, ça fait quand même un Bandol qui arrive à la quinzaine. On a... un tout petit peu ce caractère, pas olive, mais quasiment un peu méditerranéen, qui va se fondre dans le décor, je trouve. Mais ce caractère un peu viandé, pour moi, fane un peu la lecture du fruit, vous voyez ce que je veux dire ? J'aimerais une trajectoire un peu plus jeune encore dans le fruit pour qu'il aille...
C'est pas un ventre de lièvre quand même.
Non, on n'est pas un lièvre à cœur ouvert, je suis d'accord. Mais pour avoir fait une verticale de 2020 à 1982 dans une soirée chez Chef d'œuvre, je sais que des millésimes plus anciens ont gardé plus de fruits. Et c'est pour ça que par rapport à ce millésime 2009, qu'on a en tête peut-être en France de manière classique, comme ça, un repère, comme une année un peu solaire et belle, hein, enfin, on se dit c'est une belle année 2009, on s'aperçoit in fine que on a des courbes d'évolution ou des trajectoires qui peuvent un tout petit peu se faner comme ça à un instant T de la vie du vin. Et il faut être attentif à ça, parce que si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous êtes intéressé par les vins à maturité et autres. Mais le plus important, c'est de contrôler sa cave. Et soyez toujours attentif à ça, essayez de garder la jeunesse dans les vins le plus longtemps possible, parce que c'est ceux-là qui iront plus loin. C'est ceux qui gardent l'éclat du fruit. Hein. Donc, Évidemment, le temps a fait son œuvre. Les tanins sont relativement disciplinés, très suaves. Moi, j'applaudis la bouche, hein, j'adore la bouche du 2009. Là, hein. C'est très bon. Il y a une forme d'enveloppe charnelle autour de la structure tannique qui fait qu'on fait passer ça. Qui aurait dit que ce vin faisait un joli 14 hors taxe? Là, on revient un peu à notre réflexion tout à l'heure sur la puissance glycérolique des vins, qui est un autre sujet hein, pour moi. C'est sur un c'est sûr que vous faites planter un mourvèdre sur un champ de patates et que vous faites un vin à 14,5, bon, ça ne sera jamais génial plus vieux. Mais là, on est quand même sur des très grands géologiques socles géologiques calcaires. Le vin se sculpte. On récupère sur le creux de la langue un petit peu de salinité. Derrière, les tanins s'arrondissent, la magie arrive, le millefeuille automnal s'installe. C'est là qu'on a évidemment des messages intéressants. On parle du 2019 et on termine pour laisser la place à nos amis corses. Ça, je vous rappelle, donc, c'est Mourvèdre grappe entière millésime extra solaire. Moi, je n'ai pas un pet de réduction au nez. Je n'ai pas un caprice. Je me dis, purée, ça sent super bon. Et c'est peut-être là que, pour moi, le domaine de Pibarnon a cranté depuis quelques années. C'était que Bandol, on s'en fait une idée peut-être extraordinaire. Je ne pense pas que ça a été une appellation qui a été classée dans les années 30 par hasard. Je vous rappelle, c'est les fondations de nos appellations d'origine. C'est la capacité qu'ont les vins à s'améliorer dans le temps qui ont permis d'ériger la hiérarchie de nos grands vins et de terroirs. Mais évidemment, le Bandol jeune à l'ancienne, comme je les ai connus moi en commençant ma carrière, ce n'est plus tout à fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce que j'applaudis évidemment dans la prouesse là, c'est qu'on arrive à faire passer le caractère épicé de la baie, le caractère sauvage, mûr sauvage, épicé, acidulé, un peu framboise, et un peu évidemment cassis, le girofle, les petites notes comme ça qui explosent ici et là, dans quelque chose d'extrêmement canalisé et sans phénomène. Voilà. Alors, à l'aveugle, jeune, au nez, je ne sais pas si je pars mandole comme ça. Mais vous avez vu la bouche, le calibre du vin, c'est énorme comme bouteille. Hein. Moi, je pense que ça, c'est un immense vin parce que, regardez, on revient peut-être même à la synthèse du premier vin qu'on a goûté tout à l'heure avec les treilles 2020. On est très mûr, on est très concentré, on est très salin. Et on a surtout quelque chose d'éminemment long en message. C'est persistant. Et évidemment, ça donne le sourire jeune, parce qu'on se dit, bon, bah, si c'est comme ça jeune, ça va être très beau.
D'un point de vue, l'apogée de ce vin-là, c'est quoi?
Alors, d'un point de vue sensoriel, je pense que c'est un grand vin qui sera grand jeune toute sa vie. Et grand jeune et toute sa vie, pour moi, les grands vins de Bandol, il faut au moins 12 ans. Pour la maturité absolue des très très grands vins de Bandol, pour la synthèse qu'on peut en faire, c'est au moins 12 ans. Mais rien n'empêche d'exploiter cette bouteille aujourd'hui et dans 5 ans, etc. Mais là où on obtient le poudré, le truffé, le caractère boîte à cigares, etc., enfin, le millefeuille aromatique qu'on va chercher dans les grands vins de Bandol à maturité, c'est à peu près à cet âge-là que je l'isole. Est-ce que vous aimez? Vous préférez lequel des deux? Pour moi, 19, il a une classe énormissime, mais il a surtout la concentration que le premier, aussi beau soit-il dans sa sphère un peu automnale et tertiaire, n'a pas. Et je terminerai simplement cette présentation comme ça avec vous tous, mais d'abord, j'espère que comparer, enfin, première chose qu'on fait aujourd'hui, c'est génial, parce que comparer, c'est comprendre, il faut avoir bien cette capacité à... On le fait rarement à la maison, ça, de s'ouvrir deux bouteilles d'un même vin à 10 ans d'écart juste pour le fun et goûter. Ça, franchement, c'est un peu ce que nous offre ce salon. Donc, évidemment, si vous êtes là, c'est parce que vous vibrez à ces contrastes. Mais surtout, après, on apprend in fine qu'on n'a jamais fait des aussi grands vins qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu une aussi belle viticulture. On n'a jamais aussi concentré les raisins que maintenant, même si, évidemment, des fois, c'est contre l'équilibre économique établi de certaines productions ou certains domaines, mais que peut-être qu'on rentre dans l'ère en fait absolue de la de la qualité des grands vins français sur les grands terroirs français. Parce qu'on a résolu une équation économique dans la valorisation des vins. Parce qu'on a permis d'avoir une viticulture meilleure et peut-être aussi parce que on récolte plus mûr, plus précoce et plus sain. C'est terminé les vendanges sous la flotte. Enfin, il y a eu 2021 un peu spécial, etc. Mais globalement, c'est terminé les vendanges où les raisins décrochent, pourrissent et où on n'est pas mûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à la fin, on traverse une ère qui est merveilleuse pour le vin. Et évidemment, on sera là pour commenter, on l'espère, dans quelques années, 10 ans, voire plus, tout ce qui naît aujourd'hui. Écoutez, il est l'heure pour nous de laisser la place à l'île de beauté. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à vous. Merci.